RFI, grand reportage.
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Il y a 30 ans, demain, le 5 octobre 1988, les Chiliens votaient majoritairement contre le dictateur Augusto Pinochet lors d'un plébiscite organisé par la junte militaire. Pinochet dirigeait le pays depuis le coup d'État de 1973 contre le gouvernement du socialiste Salvador Allende. Le résultat du vote semblait inespéré au Chili car la répression était toujours présente, l'opposition encore divisée quelques mois plus tôt et la plupart des partis politiques de gauche interdits. Si les Chiliens avaient dit oui lors de ce plébiscite, le général Pinochet serait resté 8 années de plus au pouvoir. Le nom à Pinochet 30 ans après, comment la dictature est tombée par les urnes, c'est un grand reportage de Justine Fontaine.
Sobre un total de 15.960 mesas.
Après dépouillement dans 15.960 bureaux de vote, la tendance nationale est de 44,34% pour le oui et 53,1% pour le non.
Il est 2h du matin dans la nuit du 5 au 6 octobre 1988. Après toute une soirée de tensions et d'incertitudes, le ministère chilien de l'Intérieur reconnaît enfin la victoire du non à Augusto Pinochet. Le dictateur était à la tête du pays depuis plus de 15 ans.
Ça a été une joie immense, des pleurs, des embrassades. Les gens sont descendus dans les rues. Nous aussi, nous sommes sortis avec des banderoles, des drapeaux.
Antonia Tarcuch, une habitante de Santiago.
Ça a été une explosion de liberté à travers tout le Chili, dans les quartiers, au sein des familles, énormément de joie.
Au quartier général de l'opposition, ceux qui ont supervisé la campagne pour le non et l'observation du scrutin sont presque sonnés par la victoire de leur propre camp. Gonzalo Martner.
Il y avait une énorme histoire derrière, je veux dire, du point de vue personnel. Lorsqu'à 2h du matin, le régime a reconnu le résultat, nous étions quelques-uns à nous dire « c'est pas croyable hein, ». Parce que quand même, il faut voir le contexte. Hein. Nous avions fait le choix de jouer sur le terrain électoral, mais nous n'avions aucune certitude que ça allait fonctionner. J'avais à l'époque un petit enfant, et donc j'ai dit au revoir à ma femme et à mon petit enfant en me disant « ben je suis pas sûr que je puisse revenir ce soir hein. ». Et donc la nuit, lorsque le résultat a été reconnu, ça a été un choc émotionnel assez fort quand même. Hein.
À peine 2 ans plus tôt, les membres de l'opposition eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient accepter de participer, car le scrutin était organisé par la dictature et ils craignaient de légitimer le régime qu'ils combattaient depuis 1973, un régime qui a tué ou fait disparaître près de 4000 personnes. Alfredo Joignan est professeur de sciences politiques à l'université Diego Portales de Santiago. Il se souvient.
Non, c'était une campagne extrêmement émouvante, d'une tension rarissime. C'était franchement un moment inédit et unique dans l'histoire du Chili. Il y avait énormément de difficultés à vaincre. Hein. Véritablement, c'est fut une épopée. Parce que les listes électorales ont été brûlées à l'occasion du coup d'État. Il a fallu réinscrire toute la population en un peu plus d'un an. Les dirigeants des partis politiques d'opposition étaient littéralement inconnus parce que les partis politiques de gauche étaient interdits. C'est évident que le résultat est une lutte extrêmement déséquilibrée et asymétrique.
Au début des années 1980, certains exilés chiliens rentrent au pays avec l'idée de lutter contre la dictature. Les partis politiques de gauche sont interdits, mais l'opposition parvient à se réorganiser. Au point que de nombreuses manifestations et grèves ont lieu pendant cette période. Des centaines de personnes meurent lors de la répression de ces mouvements de protestation. En parallèle, le Parti communiste et la frange la plus à gauche de l'opposition relancent aussi la lutte armée contre le régime. Mais en 1986, un attentat organisé contre le général Pinochet échoue à tuer le dictateur. L'armée chilienne semble trop difficile à battre et l'opposition réfléchit à d'autres actions, comme l'explique le professeur de sciences politiques Alfredo Joignan.
À partir d'une réflexion menée par les intellectuels de gauche chiliens qui se trouvent en train de travailler dans des centres privés de recherche à Santiago, commence à imaginer une formule inédite, à l'origine très choquante, de battre Pinochet sur son propre terrain, de le battre dans les urnes, c'est-à-dire sur le terrain même de la Constitution.
Une idée choquante, car cette Constitution a été rédigée par un proche du général Pinochet et adoptée en pleine dictature en 1981. Mais pour tenter d'apporter une légitimité au régime, le texte prévoit d'organiser un plébiscite en 1988, lors duquel les Chiliens devront dire oui ou non au candidat désigné par la junte militaire. Sans surprise, ce candidat sera Augusto Pinochet. Malgré l'incertitude, la plupart des partis d'opposition décident de faire campagne pour le non, mais les débats internes sont extrêmement houleux, comme le raconte Gonzalo Martner, qui deviendra président du Parti Socialiste dans les années 2000 et a participé à la campagne du non à Pinochet.
Bien sûr, nous avons été extrêmement critiqués par la gauche radicale, qui nous disait que nous n'allions faire que légitimer le régime, que nous étions dans l'illusion de penser que nous pourrions gagner ce plébiscite et déclencher un processus de retour à la démocratie. Vous savez, en politique en général et dans la lutte contre une dictature en particulier, il n'y a rien de donné à l'avance. Donc, éventuellement, cette gauche radicale aurait pu avoir raison.
Le 11 septembre dernier, date anniversaire du coup d'État de 1973, l'Université du Chili organisait une remise des diplômes à titre posthume pour les étudiants tués ou disparus sous la dictature avant d'avoir pu terminer leurs études. En 1973, l'armée chilienne avait mis fin par la force au gouvernement de l'unité populaire mené par Salvador Allende. Le premier président socialiste démocratiquement élu finit par se suicider dans le palais présidentiel pris d'assaut. Pendant la dictature militaire qui commence alors, près de 40 000 personnes seront arrêtées et torturées, 4 000 autres seront assassinées. Marisol Berrios fait partie de l'association chilienne des familles des disparus.
Je suis la fille de Lincoln Berrios, arrêtée et portée disparue depuis le 15 décembre 1976.
En 1988, elle se souvient que le choix de participer au plébiscite organisé par la dictature n'a pas été facile à vivre pour elle. Elle s'inscrit tout de même sur les listes électorales, mais se prépare aussi au pire.
À ce moment-là, mon fils aîné avait un peu plus d'un an. On s'est préparé aussi parce que si la dictature ne reconnaissait pas notre victoire, on allait devoir prendre des précautions beaucoup plus grandes. Je savais par exemple que dans ce cas-là, ma mère garderait mon fils. On avait tout préparé au cas où.
Cette année-là, énormément de personnes votent pour la première fois, comme Alejandra Parra, qui est venue elle aussi à la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants tués ou disparus sous la dictature.
Je suis la fille de Mario Parra Guzmán, exécuté pour des raisons politiques, et je fais partie de l'association des familles des exécutés politiques. Je me suis inscrite dès que j'ai eu 18 ans, en juin, et le vote était en octobre, j'ai pu y participer. C'était très émouvant pour moi, parce que j'entendais toujours dire dans ma famille que c'était l'une des choses qu'on avait perdues, le droit de vote. C'était important, d'autant que j'étais la fille de quelqu'un qui avait été exécuté pour des raisons politiques.
Pendant les derniers mois avant le scrutin, l'opposition appelle à manifester plusieurs fois. Elle réunit jusqu'à 1 million de personnes à Santiago. Alejandra Parra.
C'était merveilleux, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était gigantesque, plein d'espoir. Et puis les spots électoraux pour le non ont commencé. Le fait de voir que les nôtres étaient plus positifs, avec une mise en scène plus réussie, ça nous donnait de l'espoir, on y croyait vraiment.
Tout le voyions très positif, avec beaucoup de foi.
Début septembre, 30 jours avant le plébiscite, la campagne officielle commence à la télévision. Le non a droit à 15 minutes tous les soirs vers 23 h.
Chili, la joie arrive.
Buenas noches.
Bonsoir. Pour la première fois en 15 ans, ceux qui ne partagent pas la pensée officielle ont l'occasion de s'exprimer à travers leur propre émission télévisée. C'est l'opportunité pour moi de retrouver la profession de laquelle j'avais été écarté il y a plus de 5 ans. Mais 15 minutes en 15 ans, ce n'est pas beaucoup, alors allons vers cette joie qui vient déjà.
À ce moment-là, plusieurs journaux et revues de gauche circulent légalement. Il y a aussi quelques radios d'opposition. Mais à la télévision, ces spots électoraux sont le seul espace de pluralisme. Le camp du non choisit de transmettre un message positif, un message d'espoir, tout en donnant la place à des figures de l'opposition et des messages forts contre la dictature, comme l'image de femmes de disparues qui dansent seules face à la caméra.
Vous pouvez empêcher que ces histoires ne se répètent.
No más desaparecido.
Non aux disparitions forcées.
À cette époque, à cause de l'absence de politique culturelle sous la dictature et de la censure, de nombreux artistes travaillaient dans la publicité pour gagner leur vie. Grâce à cela, ils ont appris à créer des messages forts, condensés et directs. Selon Juan Forch, l'un des réalisateurs de ces vidéos, cela explique en partie le succès des spots électoraux pour le non à Pinochet.
Ils ont pensé que nous donner seulement 15 minutes à cette heure-là ne nous suffirait pas à communiquer un message aux gens. Ils ne se sont pas rendus compte que les gens se sont concentrés sur ces émissions de 15 minutes en faveur du non et 15 minutes en faveur du oui. Et c'était ça qui les intéressait le plus, parce que c'était l'endroit où se confrontaient les deux camps.
L'un des spots en faveur du non est censuré. Dans ces vidéos, le régime présente la victoire de l'opposition comme un retour assuré vers le passé, le communisme et le chaos. D'un autre côté, il souligne la forte croissance de l'économie chilienne cette année-là. Puis arrive le jour du vote, le 5 octobre 1988.
El día del plebiscito, vívalo intensamente en cooperativa.
Nous sommes au début du printemps austral. Les files d'attente s'étalent parfois sur des centaines de mètres en plein soleil. Au total, plus de 90% des inscrits iront voter. Marcelo Ayala a voté non et se souvient d'une journée de grande tension.
Les élections sont toujours supervisées par l'armée, à Santiago en tout cas. Et évidemment, c'était une source de peur. Je me souviens que pendant que je votais, je me demandais s'ils pouvaient voir mon vote. L'insécurité était permanente, y compris quand on voyait que le non était en train de l'emporter. Il y avait cette incertitude. On ne savait pas si la victoire du non allait être reconnue ou pas.
Grâce au décompte parallèle des voix organisé méthodiquement par l'opposition, le camp du non annonce progressivement les premiers résultats qui donnent le général Pinochet perdant. Le régime, lui, annonce des résultats partiels favorables au oui. Alejandra Parra, de l'Association des familles des exécutés politiques, suivait la soirée électorale chez elle avec sa famille.
Tout le monde écoutait la radio attentivement, regardait la télé. Et tout d'un coup, ils ont commencé à passer des dessins animés. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ?
À l'étranger, les Chiliens exilés n'avaient pas le droit de voter, mais tous ont suivi l'annonce des résultats comme ils ont pu. Daisy Zamorano vivait en France à l'époque. Elle et son mari étaient militants des jeunesses communistes. Et après qu'il a été arrêté et gardé en détention pendant plusieurs jours, ils ont décidé de quitter le Chili en 1982. Le soir du plébiscite, ils avaient invité des amis chiliens chez eux, en région parisienne, pour suivre la soirée électorale retransmise par Radio Latina.
Ce soir, 23h, le Chili est en direct sur Radio Latina.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Et nous juntamos alrededor de 12 personas.
On avait invité une douzaine de personnes, ils ont apporté des drapeaux chiliens, etc. Et nous étions divisés, certains n'avaient aucun espoir que les choses puissent changer. Et d'un autre côté, mon mari et moi, avec d'autres amis, nous étions convaincus que les choses allaient changer, on en était sûrs.
Nous écoutons là les dépêches donc des correspondants en province qui sont en train de donner des résultats. Je vous laisse écouter le Chili, c'est tout le but de cette longue nuit en direct du Chili.
Quand le régime annonce pour la deuxième fois des résultats provisoires qui donnent le oui gagnant, il est très tard en France et autour de la table, personne ne croit plus vraiment à la victoire du non. Paul Vallejos est le mari de Daisy.
Tout le monde est rentré chez soi, mais moi, j'ai continué à écouter la radio, Radio Latina, dans la chambre, avec des écouteurs, je crois. Et vers 4 ou 5 heures du matin, heure française, j'ai entendu des déclarations. Il disait que le non l'avait emporté.
On
s'est levé, on a monté le son de la radio. Je me souviens en pleurant, on riait et on pleurait en même temps. On s'est dit, c'est fini, notre souffrance se termine ici. Et on a tout de suite pensé, maintenant on va rentrer au Chili.
Muchas gracias, Jaime. Más tarde tal vez tomemos un contacto directo, pero los auditores de Radio Latina.
Un cafecito. ¿Llena o más bajita?
Du côté des partisans du oui, c'est la déception. Patricia Molina a travaillé toute sa vie comme infirmière à Valparaiso, la troisième ville du pays. Elle a vécu ce moment avec son père, partisan de Pinochet comme elle.
On l'a appris le soir avec papa. On était suspendus aux informations, surtout mon père. Jamais je n'ai pensé que le non pouvait gagner. Et finalement, c'est le non qui l'a emporté. Je t'assure qu'on avait envie de mourir. On se disait, oh non, le socialisme et le communisme vont revenir, comme dans le passé, ça va être terrible. Il y avait une certaine peur parmi les gens de droite.
Marco Abarca vivait à l'époque dans un quartier très chic de Santiago. Il a voté oui à Pinochet.
Dans mon bureau de vote, beaucoup de gens étaient favorables au oui. Et puis on a entendu à la télévision que le non l'avait emporté. Pour certains, c'était une grande joie. Et pour d'autres, beaucoup de tristesse, d'incertitude. Nous nous demandions si ce que souhaitaient les gens de la campagne du non allait arriver et ce qui allait se passer pour le pays.
En réalité, ils voulaient, en leur campagne du non, ce qui allait se passer avec le pays.
Après le vote, les partisans du non descendent dans la rue pour fêter la victoire. Mais l'effervescence retombe au bout de quelques jours. Car malgré le résultat du vote, le régime reste en place jusqu'aux élections législatives et présidentielles, remportées par l'opposition à la fin de l'année suivante. Le général Pinochet ne quitte pas la vie publique avant longtemps, comme le rappelle le professeur de sciences politiques Alfredo Joignan.
Pinochet quitte le leadership de l'armée de terre seulement en 1998. Pour devenir sénateur à vie.
Il meurt en 2006 sans jamais avoir été jugé pour les crimes commis sous la dictature et les gouvernements démocratiques qui ont suivi n'ont pas réellement remis en cause le modèle économique et social imposé sous son régime. En 1988, l'espoir suscité par la victoire du non était si grand que 30 ans après, certains sont déçus. Daisy Zamorano, ancienne exilée en France.
Et on a changé algunas cosas, pero nos... Non.
Certaines choses ont changé, oui, mais pas l'essentiel. La question des inégalités sociales.
Malgré tout, son mari, Paul Vallejos, veut retenir que les Chiliens ont conquis ce jour-là un droit fondamental, pouvoir vivre en paix et sans peur. Cet ancien militant des jeunesses communistes se souvient d'un sentiment omniprésent sous la dictature.
C'était une terreur généralisée, qui ne se voyait peut-être pas tout le temps, mais qui était bien là. Donc, en termes de sécurité, de cauchemar, il y a eu un vrai changement. On peut émettre des critiques concernant les grands sujets économiques, les inégalités, les lois autoritaires qui ont persisté pendant de nombreuses années. Je partage ces critiques. Mais concernant la sensation de pouvoir vivre sa vie tranquillement, sans craindre pour sa propre sécurité, le Chili, là, a radicalement changé après le plébiscite.
Chile cambió absolutamente a partir del plebiscito. Cambió absolutamente.
Le non à Pinochet, 30 ans après, comment la dictature est tombée par les urnes. Un grand reportage de Justine Fontaine, réalisation Pierre Chaffangeon.